Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre 2011 et il y a 10 ans, des terroristes ont manifesté l'œuvre de la haine par excellence. Ils ont prouvé à quel point ils pouvaient haïr d'autres personnes en les tuant par centaines. Et aujourd'hui, nous avons célébré la Sainte Cène, qui est l'œuvre de Dieu pour nous montrer à quel point il nous aime. Et j'ai vu là un contraste étonnant entre la haine farouche des hommes et l'amour de Dieu qui a donné son Fils. J'aimerais parler ce matin à quel point Dieu nous aime. J'ai souvent entendu, et j'en l'entends de plus en plus de nos jours, des gens qui disent « Moi, je ne suis pas contre Dieu, mais je suis un peu fâché avec lui. » Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec Dieu. Pourquoi ils sont fâchés avec Dieu ? Parce que Dieu, visiblement, ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient. Il les a peut-être déçus. Ils ont peut-être perdu quelqu'un de cher. Ils ont peut-être demandé quelque chose dans la prière et ils ne l'ont pas reçu. Et disent « Moi, je suis fâché avec Dieu. » Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'est pas fâché avec vous pour autant. Il vous a aimé à un point que vous n'imaginez pas. Et il vous aime encore. Et il vous cherche encore. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a envoyé son Fils pour nous chercher. J'aimerais regarder dans Luc chapitre 15, les premiers versets, cette histoire étonnante que Jésus raconte. Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les gens très religieux, murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Mais Jésus leur dit cette parabole « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, ce sont des pièces de monnaie, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Les pharisiens et les scribes avaient une image de Dieu qu'ils transmettaient d'un Dieu inflexible, impitoyable, qui n'aimait pas les gens. Puisque dans leur discours, dans leur prêche, ils disaient tout le temps « Dieu va vous juger, vous êtes des affreux pécheurs » et surtout, même, ils n'allaient même pas vers les pécheurs. Ils restaient entre eux, le club des saints. Et ils ne mettaient jamais les pieds dans le club des pécheurs. Oubliant qu'ils étaient eux-mêmes des pécheurs, ils pensaient être au-dessus de la mêlée. Et Jésus est venu secouer cette religion qui était fausse en disant « Le Dieu, le vrai Dieu, c'est un Dieu qui cherche les perdus, qui va vers les pécheurs. Ce n'est pas un Dieu qui reste avec un club de saints. C'est un Dieu de grâce. » Jésus a été envoyé pour nous chercher comme le berger a cherché sa brebis perdue et comme la femme a cherché sa drachme perdue. Jésus est venu nous chercher. Et on peut se dire, mais pourquoi devait-il nous chercher ? Parce que nous sommes perdus. Mais en quoi sommes-nous perdus ? Parce que nous avons offensé notre Créateur par nos péchés. Nous avons souiller la conscience qu'il avait mise en nous. Hein. Cette conscience qui est innocente et puis nous l'avons graduellement souillée, enfoncée dans le mal. Et nous sommes complètement perdus. Nous n'avons plus de sagesse morale, spirituelle. Nous ne savons même plus revenir à Dieu. Comment, où est-il, qui il est? Alors on dit « je suis fâché avec Dieu », mais en réalité on est perdu, séparé de Dieu. La Bible dit « quiconque pêche transgresse la loi ». Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est transgresser la loi sainte de Dieu. Cette loi qu'il a donnée dans la Bible, mais aussi cette loi qu'il a mise dans notre conscience. Mais vous allez peut-être me rétorquer, mais moi je me sens très bien. Je ne me sens pas perdu. Je ne suis pas chrétien comme vous ou religieux comme vous, mais tout va bien pour moi. Je suis quelqu'un de bien. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas une question de sensation si vous vous sentez bien ou pas. C'est une question de justice absolue. Est-ce que devant la justice absolue de Dieu, vous êtes juste? Est-ce que devant même les 10 commandements, vous êtes juste? Ah, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Pas volé, j'aimerais vérifier quand même. Même un petit truc à vos copains ou à vos amis. Ou... Mais il n'y a pas que tuer et voler dans les 10 commandements. Hein. Il y a aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Jésus a dit « celui qui haïra a commis un meurtre hein. ». Le fait de haïr quelqu'un d'autre, de le mépriser, de se moquer de lui. Est-ce que vous êtes jamais moqué de personne? On peut s'illusionner, hein, se mentir. Mais non, je me sens très bien, moi, je connais ce qui est bien. Je suis plutôt du côté du bien. Moi, je ne suis pas un pécheur invétéré, un délinquant. Moi, je suis quelqu'un bien. J'ai même un peu de religion dans ma vie. Alors, pourquoi vous me dites que je suis perdu? Mais parce que c'est une chose de connaître le bien, et c'en est une autre de le faire. Vous pouvez dire, oui, je connais le bien, mais si vous ne le faites pas, vous êtes injuste. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et là, je peux vous dire, on en a accumulé des péchés. Le nombre de choses où on sait ce qu'il fallait faire, ah oui, oui, c'est ça qu'il fallait faire, mais on a fait le mal à la place. C'est ce que l'apôtre Paul écrit, hein, toujours dans le Nouveau Testament. Il dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Parce qu'il y a en moi une loi, la loi du péché. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a en vous cette loi du péché qui vous tient vers le bas, qui vous tire vers le bas, pardon? Vous voulez faire le bien, vous dites « Moi, je suis côté du bien. » Mais dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on voit? C'est le mal, le mal, le mal, la désobéissance, la rébellion, le péché. Et ce n'est pas simplement tuer les gens, le péché. C'est passer à côté du plan de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est être égoïste, orgueilleux, égocentrique, immoral, même si c'est en cachette. Jésus est venu nous chercher parce que nous sommes tous perdus. Même les plus religieux d'entre nous, même les plus moraux, les plus meilleurs, ceux qui ont une bonne éducation. Vous savez, quelquefois, les gens qui ont une bonne éducation sont des profonds hypocrites, hein. Devant, il vous parle avec un langage châtié, s'il vous plaît, merci. Mais après vous, mais derrière, hein, ils disent des choses vulgaires, ils vous méprisent. Jésus est venu faire cette réconciliation entre nous et Dieu. Il est venu nous chercher. Comment nous cherche-t-il? Il nous cherche d'un cœur entier. Regardez, on a lu ces deux histoires, le berger. Il donne tout pour aller chercher sa brebis perdue. Il laisse les 99 autres et il va chercher celle qui est perdue. Il pourrait se dire, bon, il y en a une de perdue, j'ai toujours 99 qui me restent, tant pis pour elle, elle n'avait qu'à pas se perdre. Le berger n'est pas comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Une seule âme perdue pour lui, c'est la catastrophe parce que son amour veut tous nous bénir et nous sauver. Alors il est allé chercher, même s'il n'y avait qu'une seule âme à sauver, Jésus serait mort sur la croix. Vous pouvez imaginer cette petite brebis rebelle et indépendante. Hein. Oh, moi j'en ai assez d'être avec le troupeau. Et puis c'est toujours le berger qui nous dit où manger. Moi j'ai repéré un autre là-bas, un petit champ là, il a l'air très bien. Mais un peu loin, je ne vois pas très clair. Je vais y aller la nuit quand personne ne me voit. Je vais sauter par-dessus le mur et je vais y aller. Alors elle y va et elle dit, oh, moi je suis indépendante. Moi je ne suis pas la foule. Moi je ne suis pas le berger. Je fais ma vie comme il me plaît. Je suis heureuse. Et pendant les premières minutes de son escapade, elle est heureuse, cette brebis. Elle dit, je suis libre. Et puis elle s'enfonce dans la pénombre. Elle cherche ce champ. Et elle commence à se perdre, elle ne le trouve plus. Et elle entre dans le désert, parce qu'en Israël, hein, il y a beaucoup de lieux désertiques. Et là, elle réalise un certain moment, en regardant derrière, elle ne sait plus où est le troupeau, plus où est le berger. Elle ne sait plus où elle est. Elle est perdue. Vous savez, cette petite brebis, hein, c'est nous. On dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Oui, Dieu, il dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi, je suis assez grand pour savoir ce que je dois faire. Je saute le mur de la Bible, hein, le mur de la foi, pas besoin de Dieu, je suis athée, voilà, comme ça, je suis tranquille. Et je m'en vais dans les ténèbres chercher un Eldorado, un bonheur illusoire. Et puis au bout d'un moment, on est perdu. Perdu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au moment où Dieu pourrait dire, tu vois ? Non, il ne dit pas tu vois. Il sort nous chercher. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, il est dit à quel point Jésus s'est donné. Philippiens 2, verset 6. Existant en forme de Dieu, donc étant Dieu lui-même, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme quelque chose à démontrer, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, ça décrit la descente du Fils de Dieu. Dieu est descendu vers les hommes. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à défendre. Non, il s'est dépouillé, il est devenu un serviteur, semblable aux hommes, et il s'est humilié et il est mort sur une croix. La descente du Fils de Dieu vers nous. Il nous a cherchés passionnément. Quand on regarde à nouveau ces petites histoires que Jésus a racontées, hein, de la brebis et de la drachme, si on regarde de près, on est un peu étonné, on les trouve un peu obsessionnels. Le berger, il dit « Oui, ma brebis perdue !» Alors, il avait toujours ses 99 à garder quand même. Non, il les laisse. Et la femme, elle avait perdu sa drachme. Au bout d'un moment, elle a pu dire « Bon, ben, je la retrouverai un autre jour ». Non, elle a tout arrêté jusqu'à ce qu'elle trouve sa drachme. Hein, il dit à chaque fois dans les deux passages « Jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ». C'est quelque chose de presque obsessionnel, presque exagéré quand même. Hein. Pour une pièce de monnaie, bon, lorsque nous avons repris un appartement qui était loué par une famille israélite, on a découvert plein de petites pièces de monnaie dans l'appartement. C'est une coutume chez certains juifs, de semer des petites pièces derrière les radiateurs et partout pour avoir la bénédiction matérielle. Eh bien là, c'était l'inverse. Elle ne voulait pas semer des petites pièces, elle voulait avoir tout là, sous les yeux. La drachme perdue. Je ne m'arrêterai pas que je ne l'ai trouvée. Et Jésus-Christ est comme ça. Quand il nous cherche absolument, entièrement, passionnément. Des fois, nous qui connaissons le Seigneur, nous manquons de cette passion pour les âmes. Nous voyons les gens perdus, justement, en dehors, et on dit, bah oui, tant pis pour eux, hein, ils ne veulent pas croire, et puis ils regardent comme ils vivent dans le péché, dans le désordre, etc. Et puis on devient des pharisiens, hein, rapidement. Si on a l'esprit de Christ, on dit, mais il faut les chercher, ces âmes. Ils sont perdus, ils ne savent pas trouver le chemin de retour vers le Seigneur. Car lorsque nous étions encore sans force, dit la Bible, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour des pécheurs, des impies, pas pour des saints, pas pour des religieux, pas pour des chrétiens, il est mort pour des pécheurs, invétérés, esclave, perdu. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Il y avait en Écosse ce chrétien qui était handicapé depuis son enfance, handicapé physique. Il était dans son lit et il n'avait même pas de chaise roulante, c'était il y a longtemps. Et malgré son handicap, il était une bénédiction pour tous ceux qui lui rendaient visite. Il avait une joie, un débordement de vie et de spiritualité. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu, il dit, je voulais vous rencontrer, on m'a parlé de vous, et je suis étonné parce que, est-ce que vous n'en voulez pas à Dieu des fois, que vous vous retrouviez là dans votre lit depuis des années, alors que Dieu devrait vous aimer, Dieu est amour, n'est-ce pas? Pourquoi vous en êtes là alors que vous avez tous vos amis d'enfance, eux, ils marchent à droite, ils courent, et vous, vous êtes cloué sur un lit. Il dit, oui, c'est vrai qu'il y a des fois, Satan vient me tenter en me disant, tu vois, pourquoi Dieu t'a laissé sur ce lit? Mais chaque fois, je lui fais la même réponse. Je lui dis, moi, je regarde d'abord à Jésus-Christ quand il était sur cette croix. Pour moi, si lui, il a accepté d'être cloué sur une croix, lui, le Fils de Dieu, c'est qu'il m'aime vraiment. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, Satan. J'ai là la preuve qu'il m'a aimé sur cette croix et qu'il m'aimera toujours. Le Seigneur a été paralysé sur cette croix, hein, cloué. Lui, le Créateur, hein, qui pouvait enlever les clous et descendre de la croix comme il voulait, il s'est laissé cloué, brisé, meurtri, insulté. Mais dans l'histoire que Jésus raconte, il dit « Il y a plus de joie dans le ciel, verset 7, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Qu'est-ce qu'il veut dire avec ces 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de repentance? En fait, c'est des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Ce sont des gens qui disent « Moi, je suis juste, je n'ai pas besoin de repentance, je ne suis pas perdu. » Et Jésus dit pour eux, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. Quelqu'un qui se croit juste. Ceux qui se croient justes passent à côté de l'amour de Christ, complètement. Ils sont dans l'orgueil, hein, du moins je suis très bien, je n'ai pas besoin du pardon de Dieu, de ce sacrifice sur la croix. Et il en parle avec mépris, hein, dans la voix. Cela passe à côté de l'amour de Dieu, complètement. Jésus nous cherche aussi dans la réalité. À cette époque, il y avait d'autres rabbins qui faisaient des disciples. Comment ça se passait? C'était en général un rabbin de haut niveau, de théologie très élevé, qui commençait à faire une école. Et là, des disciples, des écoliers, hein, des étudiants venaient, et puis parfois même ils voyageaient dans le pays pour faire d'autres disciples. Jésus a fait de même, hein. Il a été d'abord en Galilée, puis après il est allé faire d'autres disciples. Mais il y a une énorme différence entre les rabbins de l'époque et Jésus, c'est que les rabbins, eux, ils étaient enfermés dans leur théologie. C'était un maximum de connaissances intellectuelles, de mémorisation. Connaissaient la Torah par cœur, connaissaient les 613 commandements du judaïsme. Ils savaient toutes les lois qu'il fallait faire et ne pas faire pour le Shabbat. Et ils pouvaient tout citer par cœur, mais ils n'étaient pas dans la réalité quotidienne des gens. Le Seigneur Jésus, à la différence, lui, est allé, il a plongé dans la réalité des gens. Donc, quelle réalité? Les maladies, d'abord. Jésus est allé vers les malades en permanence et il laissait venir tous les malades vers lui. Au bout d'un moment, franchement, moi j'en aurais eu assez. Vous ne pourriez pas m'amener quelqu'un qui va bien ou je ne sais pas. Il avait des foules et des foules et des foules et il n'était jamais lassé. Jamais. Et il guérissait parce qu'il avait cette puissance divine de guérir les malades. Il était le Messie. Les veuves, il s'est occupé des veuves. À cette époque, être veuve, c'est ne plus avoir aucune ressource puisqu'il n'y avait pas de pension veuvage. Il s'est occupé de deux veuves, il a ressuscité leur fils unique. La mort, il a ressuscité des morts. La pauvreté, il s'est occupé des pauvres comme des riches. Le handicap, combien de paralytiques a-t-il guéri et est-il allé voir? Je pense à ceux qui étaient dans la piscine, il me semble que c'est Siloé, hein. Ils attendaient que l'eau remue et donc il y avait plusieurs lits de paralysés là, tout autour de cette grande source d'eau, hein. Une piscine, c'était pas une piscine olympique, hein. C'était une sorte de bassin, de bain d'ablution. On a retrouvé d'ailleurs à Jérusalem cette piscine. Et donc les gens étaient là abandonnés, ils passaient leurs jours entiers sur leur lit à attendre un miracle. Et Jésus, lui, est venu exprès les voir. Et à un des paralysés, il a dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il dit, « Mais tu sais, moi, j'attends qu'un ange vienne remuer l'eau et me guérir. Ça fait des années que j'attends. » Il dit, « Lève-toi et marche. » Et l'homme a cru et a obéi. Et il s'est levé et il est parti pour toujours. Il n'a plus jamais remis les pieds à la piscine. Jésus est allé voir les gens malhonnêtes aussi. Parce que la réalité de la vie, c'est qu'il y a des gens malhonnêtes. Il est allé vers eux, les publicains, ils s'appelaient. Les publicains, c'était des escrocs notoires. C'était des juifs qui travaillaient pour les Romains, ils étaient collaborateurs, ils se faisaient de l'argent avec des impôts, ils étaient dans les magouilles. Ils étaient haïs de tous les autres juifs. Et Jésus est allé voir les publicains. Parce qu'il est venu chercher ce qui était perdu. Et il est allé voir les pharisiens, qui étaient les gens les plus moraux et purs. Et il est allé manger chez eux aussi. Il est allé chercher ce qui était perdu, parce que tous sont perdus. Les prostituées, les lépreux. À cette époque-là, les lépreux étaient cantonnés dans un quartier de la ville. Il était interdit de franchir la frontière de ce quartier. On leur jetait de la nourriture à travers la frontière. Et ils passaient le reste de leur jour comme ça, avec leurs vêtements qui cachaient leurs plaies. Et quelqu'un de non lépreux s'approchait, il devait crier « Impur, je suis impur !» Imaginez la vie des lépreux. Et Jésus est allé dans le camp des lépreux et il les a touchés, il les a guéris. Qu'est-ce que Jésus nous propose avec son amour en venant nous chercher? Est-ce qu'il propose de changer notre réalité, c'est-à-dire « Je suis pauvre, j'espère que Jésus va me rendre riche. » Je suis malade, j'espère que Jésus va guérir toutes mes maladies. Est-ce que c'est ça que Jésus a promis? Non. Il y a des églises qui prêchent cet évangile dit de la prospérité. Si vous croyez en Jésus, vous serez riche et bien portant. C'est un mensonge. Ce n'est basé sur aucun verset de la parole de Dieu. Ce que Jésus nous promet d'abord est éternel, hein? Là, au ciel, nous aurons la vie éternelle, la résurrection. Mais il nous promet déjà sur la terre certaines choses. Premièrement, de pardonner nos péchés. Lorsque des amis ont pris leur ami paralytique et ils ont voulu l'amener à Jésus, ils se sont trouvés devant une maison remplie de gens et ils ne pouvaient pas rentrer. Alors, ils sont passés par le toit, ils ont fait un trou dans le toit de chaume et ils ont descendu le lit et leur ami pour qu'il arrive jusqu'à Jésus. Voilà des amis persévérants. Et quand ils l'ont présenté à Jésus, d'abord tout le monde dit « Mais comment vous dérangez le maître ?» Et Jésus dit « Non, non. » Il est allé vers ce paralysé, il lui a dit « Tes péchés sont pardonnés. » Il n'a pas dit « Lève-toi et marche », il a dit « Tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi il a dit ça? Et après, plus tard, il a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Parce que la chose la plus importante que Jésus peut nous apporter, c'est de pardonner nos fautes. Plus que guérir d'une maladie. Je vous ai parlé de ce chrétien sur son lit. Il était heureux, bien qu'il soit paralysé, mais il était heureux parce qu'il avait ses péchés pardonnés. Il était en règle avec son Dieu. Il était purifié dans sa conscience. La deuxième chose que Jésus veut faire par son amour sur la croix, c'est nous sauver du mal. En Luc 18, 19, par exemple, lorsqu'il guérit le lépreux et que le lépreux revient le voir, alors ce n'est pas Luc 18, 19, ce n'est pas grave, je vais vous citer de mémoire. Il lui dit « Ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. On le retrouve aussi en Luc 18, 42, avec quand il guérit l'aveugle, Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Non seulement il guérit cet homme, mais surtout il le sauve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ta foi t'a sauvé. Tu as cru en moi et je t'ai sauvé. Sauvé de quoi ? Sauvé du mal. Dieu ne va pas changer notre réalité, il va changer notre cœur par rapport à la réalité. Par exemple, si vous êtes pauvre pour diverses raisons, vous pouvez devenir délinquant. Vous pouvez dire, moi, ben, je suis pauvre, je vais voler, je vais faire des casses, je vais voler les casinos, etc. Mais vous pouvez aussi dire, je suis pauvre, je vais essayer de m'en sortir, je vais travailler, je vais faire des études, et je vais m'en sortir. Il y a deux façons, de voir la réalité. Et le Seigneur Jésus, quand il vient dans une vie, il change notre façon de voir la vie. On n'est plus là à chercher à s'enrichir, à s'en mettre plein les poches, à être moi. On est là plutôt à donner, parce qu'il nous donne son amour et on le partage avec les autres. Est-ce que vous avez déjà eu votre cœur changé par Jésus-Christ ? Ça, c'est une autre chose que de dire « je suis chrétien » ou « je suis baptisé » ou « je suis croyant ». Hein ? Est-ce que votre vie a été changée ? Votre cœur est né de nouveau ? Est-ce que Christ est venu bouleverser tout ça ? Il a prouvé son amour. Maintenant, c'est à nous de répondre. Il vient nous chercher, mais il ne nous tire pas par la peau du cou. Peut-être que la brebis, il a un peu forcé, hein, mais nous, il ne nous force pas. Il nous appelle. Il dit, je suis venu te chercher. Ce matin, vous êtes là dans une église. Vous entendez l'évangile. D'une certaine façon, le Seigneur Jésus s'approche de vous et dit, je viens te chercher. Est-ce que tu veux me tendre la main ? Est-ce que tu veux répondre à mon appel ? Est-ce que tu veux venir avec moi, me suivre ? Est-ce que tu veux que je sois ton sauveur et ton Seigneur ? Oui ou non ? C'est votre choix. Moi, j'ai fait mon choix, j'étais athée pendant longtemps. J'étais la brebis, justement, qui pensait être libre et heureuse et qui était malheureuse et esclave. Et le Seigneur m'a arraché du mal, m'a pardonné, m'a purifié, m'a donné un nouveau sens à la vie. Et je le louerai éternellement pour ça. On va terminer par un cantique. Je vais laisser le pasteur Somerville.